Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, alors pour cette émission, nous allons parler des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisqu'elle a été signée en 1948 et nous sommes en
2018. On calcule tous les deux.
Donc ouais. Ça fait 70 ans. Ouais. On va parler de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'était hier. Et puis on parlera de l'Arabie Saoudite, du Myanmar, de la Mauritanie, et puis de notre action les 10 jours pour signer, que nous allons faire samedi 8 décembre à la médiathèque. Et voilà, donc on va commencer par cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un texte fondateur et qui est essentiel pour le combat en faveur des droits humains. Elle a été adoptée le 10 décembre 1948 par la toute jeune Organisation des Nations Unies. Le texte représente une avancée majeure dans l'histoire de l'humanité. Ce texte représente en effet un consensus inédit pour définir, caractériser et encadrer les droits inhérents à toute personne humaine. Pour une organisation mobilisée dans la défense des droits humains comme la nôtre, Amnesty International, ce texte est fondateur et essentiel. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme est au cœur de notre mandat et de nos missions. Voilà, ce texte a donc été signé au Palais de Chaillot à Paris. Après la Seconde Guerre mondiale, dans la foulée de la création de l'ONU, pour la première fois dans l'histoire, la France propose aux autres pays l'établissement des droits fondamentaux qui s'appliquent à tout être humain. Sur les 56 pays membres de l'ONU, à l'époque, 48 voteront pour et 8 s'abstiendront. L'URSS, 5 pays socialistes, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite. Trois personnages vont jouer un rôle capital dans sa rédaction. Eleanor Roosevelt, la veuve du président des États-Unis, le docteur Chang, qui est un juriste chinois, et René Cassin, professeur en droit, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. La forme de la déclaration sera préférée à d'autres propositions, car elle n'a pas de force contraignante pour les États. Elle a le mérite de pouvoir être adoptée rapidement, contrairement à des conventions ou à des traités, qui nécessiterait des discussions et des négociations sans doute longues et difficiles avec les gouvernements. La DUDH, comme on l'appelle, expose l'ensemble des droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels inhérents à toutes les personnes humaines. Les droits civils et politiques permettent à chacune et chacun de se défendre contre les abus des États. On y retrouve la liberté d'opinion, d'expression, de se réunir, de manifester, de pensée, de religion, le droit des minorités, l'interdiction des discriminations, de la torture, de l'esclavage et le droit à la vie. La DUDH proclame aussi les droits économiques, sociaux et culturels, qui ont pour but d'assurer à chacune et à chacun la satisfaction de ses besoins de base et des conditions favorables à son épanouissement personnel. Ce sont les droits à l'éducation, au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la formation, à la protection de la famille, des enfants. Ces droits impliquent une intervention de l'État. Ces droits humains sont aussi inaliénables, c'est-à-dire que personne ne peut être privé de ces droits, ils sont innés. Ces droits sont interdépendants, ils sont liés et ont la même importance, et ils sont universels, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent à tous, partout dans le monde. Les principes de la DUDH se retrouvent dans de nombreuses cultures et le texte a été rédigé par des représentants de régions et traditions et culturelles différentes. Sa spécificité est justement de dépasser les frontières étatiques, culturelles et religieuses. Ainsi, l'universalité des droits et libertés énoncés dans la DUDH s'applique à tous, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Voilà pourquoi donc c'est un texte capital et qui va entraîner, à la suite de ce texte, de nombreux textes de protection des droits humains qui, eux, vont être contraignants. Hein, ce sont les pactes civils et politiques, les pactes économiques, socioculturels, et puis les conventions en droit de l'enfant, les conventions pour l'élimination des violences faites aux femmes, tout un ensemble de textes protecteurs qui seront, eux, contraignants une fois qu'ils auront été signés et ratifiés. Alors nous, à Digne, pour fêter ces 70 ans de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, nous allons organiser le 25 janvier 2019, ce sera un vendredi, au Centre culturel René Char, un grand concert où seront mis à l'honneur les articles de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis on va les chanter, les mettre en musique, les accompagner par de la poésie, des chansons, de la musique, des sketchs même. Il y aura des interventions de plusieurs artistes dinois, de jeunes aussi, des collégiens, des lycéens qui, à intervalles réguliers pendant tout le spectacle, vont lire ces textes sur scène et ils seront illustrés donc par tous les artistes. Voilà, donc je vous rappelle cette date, c'est le 25 janvier 2019, c'est un vendredi, de 18h30 à 22h30. Nous ferons une heure d'entracte et pendant cette heure, vous pourrez donc vous renseigner sur Amnesty International, signer nos pétitions en faveur des droits humains et puis vous restaurer, il y aura un petit buffet, voilà. On fera une entrée libre avec une participation au chapeau. L'idée étant de célébrer cette déclaration et puis de la faire connaître et en même temps d'écouter de la bonne musique, des belles chansons en lien avec ces droits. Alors peut-être Odile, puisque tu vas participer avec d'autres à cette soirée, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où en sont les préparatifs ?
Eh bien, ça avance bien. Ça avance bien. Donc, c'est vrai que c'est un spectacle qui est coordonné par Jacques Lair, donc nouveau membre d'Amnesty, c'est oui. Bien ça. Musicien, auteur, compositeur, interprète aussi depuis longtemps. Et donc, il va y avoir la lecture des droits de l'homme, ponctuée de poésie et de chansons et de sketchs. Voilà, il y aura Stéphanie. Qui va bien oui. Faire des bonnes récréations avec ses propositions. On va redécouvrir les chansons enfantines avec des airs très, très joyeux, balancent quand même des
choses importantes. Oui.
Des choses importantes. C'est vrai que c'est assez surprenant. Donc, grâce à Stéphanie, on va pouvoir avoir un zoom là-dessus.
Oui, ce sera un peu la surprise hein, voilà, de la soirée. Régulièrement, elle va intervenir, là.
Voilà, il y aura Claude Braun, donc, avec ses beaux poèmes.
Oui, Claude Braun, qui est... je suis très content qu'il soit venu dans notre projet parce qu'il est à l'origine de la création du groupe d'Amnesty sur Digne.
Ah oui.
En 1977, je crois, ou 78, juste après qu'Amnesty ait reçu le prix Nobel de la paix. C'est à ce moment-là qu'il y a énormément de groupes qui se sont créés un peu partout en France.
Voilà, et puis il y aura Jacques Lair donc, et Philippe Marteil au chant, certains chants donc, que le public pourra découvrir. Bon, bien sûr, il y aura Le jour de clarté de Graham Wright, il y aura des textes vraiment... en rapport avec les droits humains, Réfugiés, je pense, de Julien Clerc, ou La croisade des enfants de Jacques Higelin, enfin plein de belles choses. Et puis, moi, je reprendrai aussi au moins 3 chansons de Barbara accompagnées par une pianiste, Marjorie Bourgois. Voilà, ça fait aussi partie, ça fera aussi partie du spectacle. On pourra écouter Diego, la belle chanson de Michel Berger. Voilà. Et puis bien d'autres, je ne les ai pas toutes en tête, mais ça peut être bien.
Ça devrait être très bien.
Très donc, bien et assez diversifié entre les chansons, la poésie et puis peut-être de la danse avec Jean-Claude Bressac et quelques élèves.
Voilà.
Voilà.
Très
des
bien.
Des surprises.
Donc les préparations vont bon train.
Vont bon train, voilà. Les répétitions se font dans une belle ambiance conviviale et festive.
Voilà, c'est petit peu le but aussi. Hein,
voilà,
c'est
ça fait un
de
bon
célébrer
coup.
Et de fêter un peu ces textes qui sont notre, le trésor de chaque être humain, hein, mm-hmm. qu'on a besoin de connaître pour revendiquer. Voilà, ben on va écouter un chœur, La Viva. C'est une chorale qui s'est créée justement pour chanter au départ, pour chanter pour Amnesty International. Et ils interprètent justement la DUDH.
Alors on l'écoute.
La Viva.
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés, et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Réveillez-vous en dignité.
Nationalité, toute
Waouh, libre et égaux en droit.
Voilà, ouais. C'est, je vous rappelle, donc la chorale La Viva qui chantait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, alors on est libres et égaux en droit, mais il y a encore beaucoup de travail pour que ce soit effectif. Alors hier, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et pendant 7 jours, nous avons des activités sur de sensibilisation contre ces violences basées sur le genre. En venant, j'entendais à la radio qu'il disait que l'année dernière, 109 femmes en France ont été assassinées par leur conjoint. Ce qui fait en effet à peu près une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups du conjoint. C'est énorme. Voilà. Mmh. Alors nous, à Amnesty, on met un regard sur les femmes du Nigeria qui avaient été kidnappées par Boko Haram, vous vous souvenez ? Et puis qui, petit à petit, ont été libérées. Mais les violences se sont hélas pas arrêtées pour beaucoup d'entre elles, puisque les troupes gouvernementales ont déplacé, et Boko Haram, cette guerre entre eux, ont déplacé plus d'1,8 million de personnes. Et Amnesty International a documenté comment les militaires nigérians ont soumis les habitants à des déplacements forcés au cours de leur opération pour contrer les groupes armés. Depuis 2015, en reconquérant les villes et les territoires qui avaient été sous le contrôle de Boko Haram, les militaires ont installé des camps satellites dans les zones sécurisées, non loin de villes clés, surtout dans l'état de Borno. Certaines personnes ont choisi d'aller dans ces camps pour fuir Boko Haram, mais d'autres y ont été forcées par les militaires. Des familles ont été séparées. Et à leur arrivée dans les villes reconquises ou dans les camps satellites, beaucoup d'hommes, perçus comme étant en âge de combattre, ont été emprisonnés. Ce qui fait que la plupart des personnes qui sont retenues dans des camps étaient des enfants, des personnes âgées et des femmes. Des milliers essaient toujours désespérément d'avoir des nouvelles des hommes de leur famille, dont ils ne savent plus rien depuis. Amnesty International a découvert que les forces de sécurité nigérianes, qui contrôlent l'accès à la nourriture et aux produits de première nécessité, ont harcelé les femmes et les ont forcées à avoir des relations sexuelles. Ils ont aussi profité du fait que nombre de leurs maris avaient déjà été arrêtés par l'armée. Les entraves à la liberté de mouvement imposées aux femmes accentuent encore davantage les risques de violences sexuelles encourues. Amnesty a rencontré de nombreuses femmes et filles qui ont été violées ou victimes d'exploitation sexuelle. Elle a enregistré le témoignage de leur effroyable expérience, évoqué leur espoir d'une meilleure prévention à l'avenir contre ces violences et obtenir justice. La réponse du gouvernement continue d'être lamentablement inadéquate et donc de perpétuer une situation d'impunité. Aussi, sur le site d'Amnesty, vous faites amnesty.fr, vous verrez une pétition pour défendre ces femmes qui ont survécu à Boko Haram. Et le groupe Dinois, nous allons nous installer samedi prochain, le 1er décembre, de 10h à 12h30, en dessous de la Maison de la Presse sur le boulevard Gassendi. Nous allons faire un stand et il y aura cette pétition. Donc vous pourrez venir signer cette pétition pour demander la protection pour ces femmes.
Quel jour, pardon ?
Donc ça sera samedi 1er décembre de 10h à 12h30. Sur le boulevard Gassendi, un peu en dessous de la Maison de la Presse. Et puis, vous trouverez aussi les calendriers, agendas, albums pour enfants que vous pourriez offrir pour Noël. Ça fait de très beaux cadeaux de Noël. Voilà, donc ce sera donc le 1er décembre. On va écouter maintenant une chanson beaucoup plus courte de Souchon qui s'appelle « Rêveur ».
La vie un peu hindoue. On voulait des matins doux. On disait vous verrez quand ce sera nous. Plus de violence, plus de coups. On voyait nos baisers gagnants. Les filles se déshabillaient tout le temps. Tes rêveurs, ô Virginie conventionnelle, on mêlait des herbes ascensionnelles et du haut de ses cerfs-volants riant, on voyait le vieux monde s'en allant et venir à nous ses nouveautés. la paix, l'amour et la liberté. Oh, oh, rêveur, on est des rêveurs. Et puis la foule s'est mise à marcher au pas de loi du marché. Et c'est le CAC qu'a commandé, c'est le CAC qu'a cadencé, c'est le CAC avec son gling gling qu'a fait the times they are changing. Oh, 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 rêveur, on était rêveur. Foulard indien, les jambes et les guitares picking, le rêve de Martin Luther King. Le monde a sorti ses revolvers et tout le vieux matériel de guerre. Aux antipodes, la vie vaut moins cher qu'un iPod. Et moi j'attends avant de chanter, j'attends mes gardes de sécurité. J'esquisse quelques pas de danse sous les caméras de surveillance. La vie un peu hindoue, on voulait des matins doux. On disait vous verrez quand ce sera nous. Plus de violence, plus de coups. On voyait nos baisers gagnants. Les filles se déshabillaient tout le temps.
Voilà, très belle chanson de Souchon. Je vous parle maintenant de l'Arabie Saoudite. Donc, quelques semaines après l'assassinat de Jamal Khashoggi, le royaume de Riyad a fait encore parler de lui. Plusieurs défenseurs des droits humains saoudiens, dont des femmes, ont été torturés et harcelés sexuellement lors d'interrogatoires dans la prison de Daban. Ces révélations choquantes, faisant état de cas de torture, de harcèlement et d'autres formes de mauvais traitements, dévoilent de nouvelles violations des droits humains commises par les autorités saoudiennes. Elles sont directement responsables du sort réservé à ces femmes et à ces hommes en détention. Non contentes de les priver de leur liberté depuis des mois, simplement pour avoir exprimé sans violence leur opinion, elles leur infligent de terribles souffrances physiques. Les autorités carcérales d'Aban aurait averti les militants qu'ils ne devaient rien raconter à leurs proches au sujet des tortures et des procédures à l'intérieur de la prison. En effet, la torture est utilisée pour réprimer. Elle est aussi utilisée pour obtenir des aveux, entre guillemets. Et ces aveux sont bien souvent invoqués pour prononcer de lourdes peines, y compris la peine de mort, puisque l'Arabie Saoudite est un des pays qui exécute le plus, sans que le système judiciaire ne prenne les mesures nécessaires afin d'enquêter dûment sur ces allégations. La communauté internationale ne prend toujours pas de mesures pour faire pression sur l'Arabie Saoudite afin qu'elle libère immédiatement toutes les personnes incarcérées parce qu'elles ont exercé sans violence leurs droits fondamentaux. Voilà, donc les défenseurs des droits humains sont pris pour cible dans beaucoup de pays et de plus en plus. Et puis nous avons aussi été déçus, cette fois-ci, par une ancienne défenseuse des droits humains que nous avons soutenue longtemps. Il s'agit de Aung San Suu Kyi. Et voici un extrait de la lettre que Kumi Naido, notre secrétaire général, a écrit à Aung San Suu Kyi. Il y a 9 ans, Amnesty International vous a décerné sa plus prestigieuse distinction, le prix ambassadeur de la conscience. Lorsque nous vous avons remis cette récompense, vous étiez un symbole d'espoir, de courage et de défense inépuisable des droits humains, non seulement pour le peuple du Myanmar, mais aussi pour les citoyens du monde entier. En tant qu'ambassadrice de la conscience d'Amnesty International, nous espérions que vous continueriez d'user de votre autorité morale pour dénoncer l'injustice où qu'elle se manifeste, et pour le moins au Myanmar. Au lieu de cela, nous sommes à la fois inquiets et déçus par votre trahison manifeste et persistante des valeurs fondamentales que vous avez défendues pendant des décennies. Vous avez choisi d'ignorer et d'excuser la violente répression et les crimes contre l'humanité commis par l'armée contre les Rohingyas et les minorités dans l'État Kachin et le nord de l'État Shan, et votre bureau s'est employé à soustraire l'armée à un examen international et à l'obligation de rendre des comptes. En outre, nous sommes consternés par les discours de haine qu'a tenu votre gouvernement à l'égard des minorités, encourageant au lieu de freiner la discrimination et l'hostilité. En tant qu'organisation ayant œuvré sans relâche à votre libération et à la libération de tous les prisonniers d'opinion au Myanmar, nous déplorons vivement que votre gouvernement n'ait pas abrogé ou modifié les lois répressives, mais s'en soit servi pour restreindre la liberté d'expression et arrêter et emprisonner les défenseurs des droits humains, des journalistes et des militants pacifiques. Aujourd'hui, nous sommes profondément déçus que vous ne soyez plus un symbole d'espoir, de courage et de défense inépuisable des droits humains. Incapable de justifier le maintien de votre statut de lauréate du prix d'ambassadrice de la conscience, c'est avec une grande tristesse que nous vous le retirons par la présente. Voilà, donc on a retiré le prix qu'avait reçu Aung San Suu Kyi pour son combat pour la justice. Voilà, avec beaucoup de regrets, mais elle ne le méritait plus, hélas. Voilà, on va maintenant écouter encore Souchon, Parachute doré, qui fera peut-être penser à certaines personnes.
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant syndicaux, à moi le soleil et le calypso, l'anana, la noix de coco. À moi les alizés, les vents tropicaux. Et moi, bien frisé sur le bateau. Adieu les traders, adieu jogging, les briefings à l'heure. Breitling, ouvrier, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine, on délocalise les coûts. On dégringole les banques, on peut rigoler, la boîte à coller. Mes pouces, on va se la couler. Adieu calico, adieu représentant syndicaux. À moi le soleil et le calypso, l'anana, la noix de coco. Adieu château Pétrus, encore stall en vin. Adieu les jolies putrus dans les Mister Vin, balancez les fraiseuses, les machines-outils, riez, ouvriez du joli gâchis. J'ai creusé, creusé, j'ai creusé la dette, au lieu de me creuser la tête. Un jour, les cours ont chuté, et moi, parachuté, la boîte à on va se la couler, les douces, la pilule on va se la dorer, j'ai le parachute, chut, doré.
mégaphone. Adieu Calico, adieu représentants syndicaux. À moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. Adieu téléphone, adieu le bureau, secrétaire au talon haut. À moi les alizés, les vents tropicaux, et moi bien frisé sur le bateau. La boîte a coulé, mes pouces on va se la couler, les douces, la pilule on va se la dorer. J'ai le parachute.
Voilà, nous partons maintenant en Mauritanie. Vous savez que nous suivons Biram Dahabé, qui est un militant de Mauritanie très célèbre, puisque c'est le principal opposant au dictateur Aziz. C'est quelqu'un qui lutte contre la persistance de l'esclavage dans ce pays et qui, à nouveau, a été arrêté et jeté en prison, sans raison valable. Et il était invité par la CNCDH, qui est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui s'est tenue il y a quelques jours à Paris. Et bien sûr, il n'a pas pu venir. Et donc, il a fait un courrier, une lettre magnifique. Je vais vous en lire quelques extraits. Donc, cette lettre a été lue par les représentants de Biram en France à la Commission nationale consultative des droits de l'homme à Paris le 16 novembre. Aujourd'hui, je m'adresse à vous de ce siège vide, alors que je me trouve dans une cellule de la prison civile de Nouakchott, d'où je fus élu député le 1er septembre 2018. Depuis la naissance de notre mouvement en 2008, nous menons une lutte non violente pour assurer aux Noirs de Mauritanie l'égalité des droits, en somme tourner la page des siècles d'esclavage, de racisme et de déni des droits élémentaires. Sur le chemin ardu de l'émancipation, nous endurons surtout la torture, comme l'attestent divers témoignages des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Notre combat ne vise qu'à accélérer l'avènement d'une Mauritanie de la paix dans l'équité, pas celle qui reproduit le statu quo de la supériorité raciale. Nous voulons pour nos enfants, petits-enfants et les générations à venir, un avenir de dignité reconquise par l'exercice plein de la qualité de citoyen. Notre dessein comporte l'application effective des lois devant mettre un terme à l'impunité, l'accès à l'éducation de base, le partage des ressources et le respect du suffrage universel. Nous sommes des passeurs d'espérance qui voulons permettre à nos compatriotes d'écrire une nouvelle page de relations humaines dans ce désert dont l'hostilité n'a d'égal que l'intransigeance de ses puissants. Aux Mauritaniens qui naissent diminués et grandissent sans état civil, ni la conscience du droit à vivre heureux, nous offrons l'alternative d'une fierté, d'un projet, d'un relèvement contre la fatalité d'un passage sur terre aussi bref qu'absurde, à rebours de la faim, de la soif, de la maladie et de sentiment de sa propre infériorité. Nous propageons le message de la révolte, oui, parce que notre humanité nous l'enjoint. Nous préoccupe, entre autres sujets de rupture dans la communauté de destin, le sort des fillettes et femmes nées du mauvais côté de la barrière sociale. Elles subissent l'exploitation domestique, le viol et une prévalence spécifique des maladies sexuellement transmissibles. Tout comme leurs congénères masculins, elles ne peuvent prétendre aux soins qu'en revenant sous la coupe de la famille ou la tribu du maître. À cause de l'extrême pauvreté et de la mainmise de la minorité arabo-berbère sur 95% des centres de pouvoir et de décision, le noir mauritanien ne peut survivre sans participer à reconduire sa domination. Des cas de récidive indirects se déroulent sous nos yeux. Des esclaves déçus et frustrés de ne pouvoir aspirer à mieux retombent sous la servitude volontaire, pour reprendre l'admirable expression de M. de la Boétie. En Mauritanie, le racisme est avant tout une prédation, une entreprise de rapine, dont les arguments moraux ne cachent plus l'avidité brutale. Depuis toujours, les maîtres nous subjuguaient par leur religion, c'est-à-dire celle qu'ils ont façonnée sur mesure. Aujourd'hui, certains d'entre eux prétendent nous libérer avec le même outil. Faut-il en rire ou en pleurer? Mesdames et messieurs, chers amis, dans la promotion de l'universalisme, telle se présente la Mauritanie. alliée de l'Occident démocratique dans la fameuse lutte contre le terrorisme. Mon pays, où le fanatisme religieux organise la société, l'État, le statut personnel et encadre l'esprit du législateur, s'apprête à lancer ses forces sur les traces des islamistes armés au-delà de nos frontières. Or, la Mauritanie, membre du G5 Sahel, applique le programme juridique des prosélytes du califat terroriste. Comment peut-on condamner ce que l'on enseigne à ses enfants ? Sur cette note d'interrogation volontairement embarrassante, je conclus mon laïus d'outre-cachot. La bataille pour la restauration de notre intégrité vous concerne. Nous avons besoin de vous, au nom de l'espèce à laquelle nous appartenons tous, si vulnérables devant le déchaînement de la force brute, mais magnifique et triomphante quand elle se dresse en travers. Robert Antelme échoua en prison parce que Français avide de liberté pour son pays. Mais il apprit, de l'épreuve des camps, combien il était d'abord membre de la famille humaine. Mes camarades et moi, nous revendiquons de l'héritage noble et en entretenons la mémoire. Sans vouloir être plus long, les IRAs qui ont essaimé en Europe, Amérique du Nord et Afrique, à l'image des membres et dirigeants d'IRA France-Mauritanie, illustrent notre modèle rêvé pour la symbiose universaliste des justes face à l'interpellation du défi. Nous comptons sur vous. Voilà la lettre qu'a adressée de sa prison Biram Dahabé, défenseur des droits humains, à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le 16 novembre 2018. On va maintenant écouter Julos Bogarn dans la chanson « Ton Christ est juif ».
Dès le moment où nous sortons du ventre de notre mère, nous devenons toutes et tous des émigrés. Ton Christ est juif, ta voiture est japonaise, ton couscous est algérien, ta démocratie est grecque, ton café est brésilien, ton Chianti est italien, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ta montre est suisse, ta chemise est indienne, ta radio est coréenne, tes vacances sont tunisiennes, tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Tes figues sont turques, tes bananes viennent du Cameroun, ton saumon vient de Norvège, ton tchantchier vient de Liège, le Lotspiegel vient de Dame, du Zaïre vient ton tam-tam et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Tes citrons viennent du Maroc, tes litchis de Madagascar, tes piments du Sénégal, tes mangues viennent de Bangui, tes noix de coco de Côte d'Ivoire, tes ananas de Californie, tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Tes citrons viennent du Maroc, tes litchis de Madagascar, tes piments du Sénégal, tes mangues viennent de Bangui, tes noix de coco de Côte d'Ivoire, tes ananas de Californie, tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ta vodka vient de Russie, ta bière de Rhénanie, tes oranges d'Australie, tes dattes de Tunisie, ton Gulfstream vient des Antilles, tes pommes de Poméranie, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ton djembé vient de Douala, ton gingembre vient d'Ouganda, ton boubou vient de Tombouctou, tes avocats du Nigeria, tes asperges viennent du Chili, ton ginseng vient de Philippines, et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Mais n'est possible de faire ainsi.
Voilà, alors donc on a beaucoup parlé des défenseurs des droits humains. En 2017, 312 défenseurs des droits humains ont été tués dans 27 pays pour avoir défendu pacifiquement les droits humains. Vous avez vu le cas de Biram Dahabé, des défenseurs des droits humains en Arabie Saoudite. Alors, quelle est la définition d'un défenseur des droits humains ? C'est toute personne qui, individuellement ou en groupe, agit pour défendre et ou promouvoir des droits humains, que ce soit au niveau local ou international, est considéré comme un défenseur des droits humains. Ce qui distingue un défenseur des droits humains, c'est son action non violente pour les droits. Quel que soit son statut ou son métier, ces personnes viennent de tous horizons et peuvent mener leur activité soit dans le cadre de leur profession, soit à titre personnel ou bénévole. Par leur action, elles défendent l'égalité et la justice pour chacun d'entre nous. Alors pour cette période du 10 décembre qui est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette année c'est donc le 70e anniversaire, Amnesty International lance une campagne qui s'appelle « Les 10 jours pour signer », comme chaque année. Et cette année, nous avons choisi sur les 10 cas de la campagne, 9 sont des défenseurs des droits humains. Et sur les 9 défenseurs des droits humains, 8 sont des femmes. Nous allons, alors, pour vous citer quelques exemples, nous allons nous engager pour demander justice pour une militante des droits LGBTI en Ukraine. Nous allons demander la fin du harcèlement contre une militante du droit à la terre en Inde. Stop aussi au harcèlement contre une militante des droits humains au Maroc. Justice pour une militante des droits humains au Brésil. Stop au harcèlement contre une militante du droit à la terre en Afrique du Sud. Nous allons soutenir le combat de Gulzar pour les droits des personnes handicapées au Kyrgyzstan. Nous allons demander justice pour Géraldine Chacon, militante des droits humains au Venezuela. La liberté pour Athena Daemi, militante contre la peine de mort en Iran. La liberté pour Amal Fati, militante contre le harcèlement sexuel en Égypte. Et puis, nous demanderons la fin des expulsions du peuple Sengwer au Kenya. Voici les 10 cas qui seront présentés et pour lesquels nous allons essayer d'obtenir un maximum de signatures de pétitions, d'envois de cartes durant tout le temps de la campagne. Donc, comment nous allons procéder ? D'abord, le groupe Dinois va intervenir dans les lycées de Digne pour ces 10 cas. Donc, le lundi 3 décembre, nous serons au lycée Alexandra d'Avinel, dans une classe de première qu'ils nous ont demandé. Et nous mettrons une exposition, nous présenterons ces cas à la médiathèque, et pas à la médiathèque, au CDI, je veux dire, au CDI du lycée d'Avinel. Et ces cas seront, les pétitions seront au CDI pendant toute la semaine. Donc, les lycéens pourront signer, les professeurs aussi. Le jeudi 6 décembre, nous serons au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Alors, au lycée Pierre-Gilles de Gênes, il y a une antenne d'Amnesty International, une antenne jeune. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui sont volontaires pour faire des actions pour Amnesty International. Donc, ils sont en lien directement avec la section française. Ils ont commandé tout le matériel de la campagne 10 jours pour signer. Donc, pendant toute la semaine, ils vont faire signer des pétitions. Mais ils nous ont demandé de venir les aider parce qu'en fait, comme ils ont des cours, ils ne sont pas disponibles tout le temps.
Ce sont des jeunes de 16 ans, hein, c'est ça ?
Ce sont des jeunes entre 16 et 18
ans. Voilà, il faut avoir 16 ans minimum.
Voilà, alors pour signer les pétitions, ce n'est pas un contrat, une pétition. Donc, à partir de 16 ans, un jeune peut signer une pétition parce que par là, il exprime son opinion. Et la Convention des droits de l'enfant, puisqu'à 16 ans, on est encore un enfant, jusqu'à 18 ans, prévoit la liberté d'opinion et d'expression de l'opinion pour les enfants. Donc, ils ont tout à fait le droit de signer des pétitions. Et d'ailleurs, le proviseur du lycée est tout à fait favorable à notre action. Puis en même temps, ils vont envoyer des cartes, discuter des cas, voir un petit peu pour chaque cas quelles sont les violations, de quels droits ont été violés dans les cas précis. Voilà, il y a toute une formation aussi à l'éducation aux droits humains à travers cette campagne. Voilà, et l'année dernière, ils avaient recueilli un nombre impressionnant de signatures, hein, puisque c'était plus de presque 3000, je crois. Il me semble de mémoire, c'était vraiment... Parce qu'après, ils vont... Le soir aussi, ils passent à l'internat pour faire signer ceux qui ne nous ont pas vus. Donc, le jeudi 6, le groupe de Digne ira tenir un stand devant le restaurant de leur cantine. Et là, tous les jeunes passent et ils sont très sensibilisés. Comme en plus, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux. Ils connaissent Amnesty International. Et enfin, pour le grand public, nous serons le samedi 8 décembre à la médiathèque de Digne, de 10h à 17h. Dans le grand hall de la médiathèque, avec toutes les pétitions, les cartes de soutien que vous pourrez envoyer. Voilà, donc venez le samedi 8 décembre à la médiathèque. Nous vous y attendons. On vous montrera aussi les albums qu'on a coédités, des albums pour enfants, hein, sur le thème des droits humains. Et les calendriers qui restent, voilà, vous aurez tout un tas de documents, d'informations aussi. Et puis, vous pourrez signer nos pétitions sur les 10 cas que je vous ai rapidement présentés. Voilà, alors j'ai bientôt fini cette émission. Vous dire que demain à 18h, il y a la réunion du groupe. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent venir participer, voir un peu comment ça se passe, ils seront les bienvenus. Donc, c'est demain dans les salles des associations à côté de la mairie de Digne, à côté de l'atrium. Et puis, n'oubliez pas, vendredi 17 décembre, à 18h30, il y a le rassemblement Nous voulons des coquelicots, à Digne, Manosque, Oraison, Cruis et Pierre-Vert, je crois, sur le département. Et donc, voilà, c'est pour le droit à la santé. Donc, on demande la fin des pesticides qui nous empoisonnent petit à petit. Voilà, on va terminer par un hommage à Salvador Allende et à Victor Jara.
Alors lequel
C'est le CD, c'est la chanson numéro 10, c'est Manifiesto. C'est une chanson, paroles et musique de Victor Jara, et c'est chanté par Victor Jara. Alors, un petit mot sur Victor Jara. C'était un artiste très engagé du Chili, du temps d'Allende, hein, qui a soutenu Allende, et qui a été arrêté le 11 septembre 1973 dans la foulée de la... l'assassinat, entre guillemets, d'Allende, enfin la prise de pouvoir par la force. Et la fin de cette expérience qui portait beaucoup d'espoir pour beaucoup de personnes. Et donc, 5 ans et demi après leur inculpation, 9 militaires chiliens ont été condamnés mardi 3 juillet 2018, donc vous voyez, c'est récent, à Santiago, pour la mort du chanteur Victor Jara le 16 septembre 1973. Vous voyez, donc c'était 5 jours après... l'assaut sur le palais présidentiel. Donc, 5 jours après, le coup d'État du général Pinochet. Et donc, beaucoup d'années après, il y a eu enfin le procès et ont été condamnés à 18 ans de détention, 8 personnes, le dernier 5 ans pour complicité. Donc, 45 ans. Il aura fallu 45 ans pour qu'aboutisse le procès de l'assassinat de celui qui fut, avec le président Allende, la victime la plus célèbre du putsch militaire. Les procédures judiciaires ne sont pas closes pour autant. Les condamnés peuvent faire appel. Et le cas du 10e homme, celui qui a tiré le coup de grâce dans la nuque de Jara, reste en suspens. Il a fui aux États-Unis en 1989 et le Chili le réclame depuis 2014. Voilà donc pour vous dire que la justice, même si elle met du temps, elle finit toujours à retrouver les coupables et les condamnés. On a attendu 45 ans hein, pour que dans ce sinistre stade où la junte avait enfermé les opposants et les avait assassinés, il y ait enfin des condamnations de ces gens qui avaient lâchement torturé et tué Victor Jara, dont nous allons écouter le chant et c'est sa voix. Merci.
Palpiten las venas las mujeres ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
Siempre será canción nueva.